Chapitre 16. La révélation et le prophète vivant.
La grande règle du ciel est que jamais rien ne se fasse sur terre sans que le secret n'en soit révélé à ses serviteurs, les prophètes.
Épisode de la vie de Joseph Smith.
Pendant son séjour à Kirtland, Ohio, Joseph Smith, le prophète, a reçu un grand nombre de révélations, ce qui confère à cette époque une grande importance à l'affermissement de la doctrine et du mode de gouvernement de l'Église. Quand le prophète recevait ces révélations, il était souvent en présence d'autres dirigeants de l'Église, et quelqu'un écrivait ses paroles à mesure qu'il les recevait du Seigneur. Les révélations venaient fréquemment en réponse à la prière. Parle Épiprate, qui fut plus tard membre des douze, était là quand le prophète a reçu la révélation aujourd'hui contenue dans la section 50 des Doctrines et Alliances. Frère Pratt raconte. Après que nous nous fûmes joints à lui en prière dans sa salle de traduction, il dicta en notre présence la révélation suivante. Il prononçait les phrases lentement et très distinctement, avec entre chaque une pause suffisamment longue pour qu'un copiste ordinaire ait le temps de la transcrire en écriture courante. Jamais il n'hésitait, ne révisait ou ne relisait pour garder le fil du sujet. Certaines révélations avaient été copiées à des fins personnelles et les membres de l'Église en général ne les avaient pas. Joseph Smith savait que les révélations de Dieu étaient si importantes qu'il fallait les préserver soigneusement et les mettre à la disposition du monde. En novembre 1831, au cours d'une conférence qui se tenait à Hiram, Ohio, le prophète décida avec d'autres dirigeants de l'Église de publier des révélations choisies parmi celles qu'il avait reçues jusqu'alors. Quand la décision fut prise, le prophète reçut une communication divine que le Seigneur appela « Ma préface au livre de mes commandements ». Doctrine et Alliance, section 1, verset 6. Cette révélation contenue dans la première section des Doctrines et Alliances indiquait l'approbation du Seigneur à la publication des révélations et expliquait dans quel but il les avait données. L'Éternel déclare « Sondez ces commandements, car ils sont vrais et dignes de foi, et les prophéties et les promesses qu'ils contiennent s'accompliront toutes. » Doctrine et Alliances, section 1, verset 37. Le deuxième jour de conférence, après qu'on lui eut lu la révélation, le prophète se leva et exprima sa reconnaissance envers le Seigneur pour son assentiment. À la suite de cette conférence, le prophète raconta. Pendant près de 2 semaines, mon temps a été entièrement occupé à revoir minutieusement les commandements et à être en conférence. Du 1er au 12 novembre, nous avons tenu 4 conférences spéciales. Au cours de la dernière, l'Assemblée a déclaré que les révélations avaient la valeur de toutes les richesses de la terre. Elle a également affirmé que les révélations sont le fondement de l'Église dans ces derniers jours et un bienfait pour le monde, montrant que les clés des mystères du royaume de notre Sauveur sont de nouveau confiées à l'homme, et que les richesses de l'éternité sont à la portée de ceux qui sont disposés à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Des copies manuscrites des révélations ont été envoyées à William W. Phelps, au Missouri, afin qu'elles soient publiées sous le titre de « Livre des commandements ». Frère Phelps, qui avait reçu le commandement du Seigneur de s'installer au Missouri et d'être imprimeur pour l'Église, Doctrine et Alliances, section 57, verset 11, s'est mis rapidement à la composition du livre. Cependant, le 20 juillet 1833, des émeutiers ont détruit la presse et la plupart des feuillets imprimés. Quelques-uns des feuillets libres ont été sauvés par des membres de l'Église, puis reliés individuellement, mais le livre n'est jamais paru officiellement. En 1835, les révélations qui devaient faire partie du livre des commandements, ajoutées à de nombreux autres, ont été publiées à Kirtland sous le titre « Doctrine et Alliance ». Avec les révélations supplémentaires qui ont été ajoutées depuis 1835, ce livre témoigne que Dieu parle aujourd'hui par l'intermédiaire de son prophète vivant, le président de l'Église, pour bénir et guider son Église.
Enseignement de Joseph Smith. Dieu a toujours guidé son peuple et son Église par la révélation.
Neuvième article de foi. Nous croyons tout ce que Dieu a révélé, tout ce qu'il révèle maintenant. Et nous croyons qu'il révélera encore beaucoup de choses grandes et importantes concernant le royaume de Dieu. On ne peut comprendre les choses de Dieu et du ciel autrement que par révélation. On peut parler de choses spirituelles et exprimer des opinions indéfiniment, mais ce n'est pas l'autorité. La doctrine de la révélation est de loin supérieure à la doctrine de la non-révélation, car une vérité révélée du ciel vaut mieux que toutes les notions partisanes qui soient. Le salut ne peut venir sans la révélation, et il est vain à quiconque d'officier sans elle. Personne ne peut être ministre de Jésus-Christ s'il n'a pas le témoignage de Jésus, et c'est là l'esprit de prophétie. Apocalypse, chapitre 19, verset 10. Chaque fois que le salut a été administré, il l'a été par témoignage. Les hommes de notre temps témoignent du ciel et de l'enfer, mais n'ont vu ni l'un ni l'autre, et je déclare que personne ne connaît ces choses-là sans révélation. Jésus a enseigné : « Sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Matthieu chapitre 16, verset 18. De quelle pierre s'agit-il ? De la révélation. L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours a été établie sur la révélation directe, comme l'a toujours été la véritable Église de Dieu selon les Écritures. Amos chapitre 3, verset 7 et Actes chapitre 1, verset 2. Et par la volonté et les bénédictions de Dieu, j'ai été un instrument entre ses mains jusqu'à présent pour faire avancer la cause de Sion. Propos du prophète dans une conférence de l'Église en avril 1834. Le président Joseph Smith fils a lu le second chapitre de la prophétie de Joël, puis a prié et s'est adressé à l'assemblée en disant « Notre situation est différente de celle de tous les peuples qui ont jamais vécu sur cette terre. En conséquence, ces révélations passées ne peuvent convenir à notre situation. Elles ont été données à d'autres personnes qui ont vécu avant nous, mais dans les derniers jours, Dieu devait appeler un reste, en qui serait la délivrance, tant à Jérusalem qu'en Sion. » Joël chapitre 2, verset 32. Si Dieu ne donne plus de révélation, où trouverons-nous Sion et ce reste? Le président a ensuite établi un lien entre le don et la traduction du livre de Mormon, la révélation sur la prêtrise d'Aaron, l'organisation de l'Église en 1830, la révélation sur la haute prêtrise et le don du Saint-Esprit déversé sur l'Église. Puis il a ajouté: ôtez le livre de Mormon et les révélations, que reste-t-il de notre religion? Plus rien.
Le président de l'Église est désigné pour recevoir la révélation de Dieu pour l'Église. Les individus peuvent recevoir la révélation pour leur responsabilité personnelle.
Jésus a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, etc. La grande règle des cieux est que jamais rien ne s'accomplit sans que Dieu ne révèle son secret à ses serviteurs les prophètes, en accord avec Amos chapitre 3, verset 7. En septembre 1830, Joseph et Emma Smith ont déménagé d'Harmony, Pennsylvanie, à Fayette, New York. À leur arrivée, ils ont découvert que des saints avaient été trompés par les affirmations de fausses révélations. À notre plus grande peine, nous avons vite découvert que Satan était à l'affût pour duper et chercher qui il allait dévorer. Frère Hiram Page avait en sa possession une certaine pierre par laquelle il avait obtenu plusieurs révélations concernant l'édification de Sion, l'ordre de l'Église, etc. Tout était totalement en désaccord avec l'ordre de la maison de Dieu tel qu'établi dans le Nouveau Testament et nos révélations récentes. Puisqu'une conférence avait été planifiée pour le 26 septembre, j'ai pensé qu'il était sage de ne rien faire de plus que de discuter de cette affaire avec les frères jusqu'à ce que la conférence se réunisse. Cependant, en découvrant que beaucoup de personnes, notamment la famille Whitmer et Oliver Cowdery, croyaient beaucoup aux choses annoncées par cette pierre, nous avons pensé qu'il valait mieux demander conseil au Seigneur à propos d'un sujet si important, et avant que la conférence ne débute, nous avons reçu la réponse suivante. Révélation donnée en septembre 1830 à Oliver Cowdery, à Fayette, New York. « Mais voici, en vérité, je te le dis, Nul ne sera désigné pour recevoir des commandements et des révélations dans cette église, si ce n'est mon serviteur Joseph Smith fils, car il les reçoit tout comme Moïse, et tu seras obéissant aux choses que je lui donnerai. Et tu ne commanderas pas à celui qui est à ta tête et à la tête de l'église, car je lui ai donné les clés des mystères et des révélations qui sont scellées jusqu'à ce que je leur en désigne un autre à sa place. De plus, tu prendras ton frère Hiram-Page en particulier, et tu lui diras que les choses qu'il a écrites d'après cette pierre ne sont pas de moi, et que Satan l'a trompé. Car voici, il n'a pas été désigné pour ces choses, et aucun membre de l'Église ne sera désigné pour quelque chose de contraire aux alliances de l'Église. Car tout doit se faire avec ordre et par consentement commun dans l'Église, par la prière de la foi. Doctrine et Alliance, section 28, versets 2 et 3, versets 6 et 7, et versets 11 à 13. Enfin, la conférence eut lieu. Le sujet de la pierre dont nous avons parlé précédemment a été abordé, et après un examen très approfondi pour le plus grand bonheur de tous, frère Page, ainsi que toute l'Église présente, ont renoncé à la pierre et à tout ce qui s'y rattachait. Les présidents ou la première présidence sont à la tête de l'Église et c'est à travers eux que Dieu révèle sa volonté la concernant. C'est là l'ordre des cieux et le pouvoir et le privilège de la prêtrise de Melchisédek. Tous ceux qui officient dans l'Église ont également le droit de recevoir des révélations dans les limites de leur appel et de leur devoir dans l'Église. Nous estimons que nous n'avons pas à recevoir de révélations de qui que ce soit, homme ou femme qui n'est ni désigné ni ordonné à cette autorité et qui n'en fournit pas la preuve suffisante. Il est contraire à l'ordre de Dieu qu'un membre quelconque de l'Église, ou qui que ce soit, reçoive des instructions pour ceux dont l'autorité est supérieure à la leur. Vous verrez donc qu'il serait déplacé d'en tenir compte. Mais si quelqu'un reçoit une vision ou la visite d'un messager céleste, c'est pour son profit et son instruction personnelle. Car les principes fondamentaux, le gouvernement et la doctrine de l'Église sont exercés par les clés du royaume.
Le président de l'Église nous transmet la parole de Dieu pour notre temps et pour notre génération.
Alors qu'il était conseiller de Brigham Young, Heber C. Kimball a dit « À de nombreuses reprises, frère Joseph Smith nous a affirmé, au frère Brigham et à moi-même, qu'il était un représentant de Dieu pour nous instruire et nous diriger et pour réprouver les fautifs. » Wilford Woodruff, quatrième président de l'Église, a dit « Je me réfère à une réunion à laquelle j'ai assisté dans la ville de Kirtland étant jeune. Au cours de cette réunion, des remarques ont été faites au sujet des oracles vivants et de la parole de Dieu écrite. Un dirigeant de l'Église s'est levé et s'est exprimé sur le sujet en ces mots. Vous avez la parole de Dieu devant vous dans la Bible, le Livre de Mormon et les Doctrines et Alliances. Vous possédez la parole de Dieu écrite, et vous qui donnez des révélations devriez le faire en accord avec ces livres, puisque ce qui est écrit dans ces livres est la parole de Dieu. Nous devrions nous borner à eux. » En conclusion, frère Joseph s'est tourné vers frère Brigham Young et a dit « Frère Brigham, venez nous exposer votre opinion sur les oracles vivants et sur la parole écrite de Dieu. » Frère Brigham est venu à la chaire, a posé la Bible, le Livre de Mormon et les Doctrines et Alliances sur le pupitre devant lui et a dit « Ceci est la parole écrite de Dieu pour nous, concernant son œuvre depuis le commencement du monde, ou presque jusqu'à nos jours. » Et maintenant, dit-il, si je les compare aux oracles vivants, ces livres ne sont rien pour moi. Ces livres ne transmettent pas la parole de Dieu directement pour nous maintenant, comme le fait un prophète, ou un homme qui détient la sainte prêtrise dans notre temps et dans notre génération. Je préfère un oracle vivant à tout ce qui est écrit dans les livres. » C'est là la substance de ses propos. Quand il a eu terminé, frère Joseph a dit à l'assemblée, Frère Brigham vous a dit la parole du Seigneur et la vérité. » Brigham Young, deuxième président de l'Église, a raconté. De nombreuses années auparavant, le prophète Joseph a fait la remarque que si le peuple de l'Église avait accepté les révélations qu'il avait reçues et agi en conséquence, selon les préceptes du Seigneur, la force de ses actes et de sa compréhension aurait été bien supérieure à ce qu'elle était alors.
Nous soutenons le président et les autres dirigeants de l'Église en priant pour eux et en écoutant leurs conseils.
Joseph Smith rapporta les événements suivants survenus à la consécration du temple de Kirtland le 27 mars 1836. Dans une brève allocution, j'ai demandé au collège et à toute l'assemblée des saints de reconnaître les membres de la première présidence comme prophètes et voyants et de les soutenir par leurs prières. Tous ont fait alliance de le faire en se levant. J'ai ensuite demandé au collège et à l'assemblée des saints de reconnaître les 12 apôtres présents comme prophètes, voyants, révélateurs et témoins spéciaux devant toutes les nations de la terre, détenant les clés du royaume afin d'en ouvrir les portes ou de le faire faire parmi elles et de les soutenir par leurs prières. Et ils ont manifesté leur assentiment en se levant. Puis je demandai au collège et à l'assemblée des saints de reconnaître les présidents des 70, de les soutenir par leurs prières, ce qu'ils ont fait en se levant. Dans chaque cas, le vote a été unanime, et je leur ai prophétisé à tous que tant qu'ils soutiendraient ces hommes dans leur charge, le Seigneur les bénirait, oui, au nom du Christ, que les bénédictions du ciel leur appartiendraient. À l'image de ceux qui ont soutenu les mains de Moïse, Exode chapitre 17, versets 8 à 13, soutenons également les mains de ceux qui sont désignés pour diriger les affaires du royaume, de sorte qu'ils soient renforcés et qu'ils aient la capacité de poursuivre leur grand dessein et de contribuer à l'accomplissement de la grande œuvre des derniers jours. Maintenant, si des personnes accomplissent des choses simplement parce qu'on le leur recommande, puis se plaignent pendant tout le temps qu'elles les font, cela ne sert à rien. Elles feraient aussi bien de ne rien faire du tout. Certains professent être des saints, mais ont trop tendance à se lamenter, à faire des reproches quand on leur donne un conseil qui va à l'encontre de leurs sentiments, quand bien même ils ont demandé conseil eux-mêmes. Leur réaction est encore pire quand on leur donne un conseil qu'ils ne demandaient pas, surtout s'il vient à l'encontre de leur idée. Mes frères, nous espérons mieux de la plupart d'entre vous. Nous sommes certains que de temps en temps, vous aspirerez à recevoir des conseils et que vous vous y conformerez avec joie chaque fois que vous les recevrez d'une source appropriée. Elisa Ersnow a rapporté. Joseph Smith a dit que si Dieu l'avait nommé et choisi pour être un instrument chargé de diriger l'Église, pourquoi ne pas le laisser faire? Pourquoi s'opposer lorsqu'il est nommé pour faire quelque chose? Qui connaît la pensée de Dieu? Ne révèle-t-il pas des choses auxquelles on ne s'attend pas? Le prophète a fait observer qu'il s'élevait continuellement, en dépit de tout ce qui l'accablait, lui barrait la route et s'opposait à lui. Malgré toute l'adversité, il sort toujours vainqueur au bout du compte. Il a réprouvé les gens qui étaient enclins à critiquer sa façon de traiter les affaires de l'Église. Il disait que Dieu l'avait appelé pour diriger l'Église et qu'il le ferait correctement. Ceux qui entreprennent d'interférer seront couverts de honte lorsque leur propre folie sera révélée.
Les gens qui rejettent le prophète vivant ne progresseront pas et s'attireront les jugements de Dieu.
Bien que littéralement toute connaissance vienne de Dieu, lorsqu'elle a été révélée, tous les hommes n'ont pas cru à l'époque en son origine divine. Noé était un homme parfait et la connaissance ou révélation de ce qui allait se produire sur terre lui a permis de se préparer et de sauver sa famille et lui-même du déluge. Cette connaissance ou révélation a été rejetée par les habitants de la terre. Ils savaient qu'Adam était le premier homme, fait à l'image de Dieu, qu'il était un homme bon, qu'Énoch avait marché avec Dieu durant 365 ans, puis avait été enlevé au ciel sans goûter la mort. Mais ils n'ont pas pu accepter la nouvelle révélation. Nous croyons aux anciennes parce que nos pères y croyaient, mais il est hors de question d'en avoir de nouvelles, et le déluge les balaya. Le même principe s'est manifesté chez les Juifs quand le Sauveur est venu dans la chair. Ils se vantaient des révélations anciennes, ornaient les sépulcres des morts, payaient la dîme de la menthe et de la nette, faisaient de longues prières pour l'apparence, et couraient la mer et la terre pour faire des prosélytes. Mais lorsque la nouvelle révélation est sortie de la bouche même du grand Je suis, ils n'ont pas pu l'endurer, c'était beaucoup trop. Elle montrait la corruption de leur génération, comme cela a été le cas d'autres auparavant, et ils ont crié « Qu'on l'ôte d'ici, crucifiez-le !» Une fois encore, on retrouve la même attitude et le même langage quand le livre de Mormon a été donné à cette génération. On bénit la révélation ancienne, les grands patriarches, les pèlerins et les apôtres. On croit en eux, mais on ne peut tolérer les nouveaux. Le monde a toujours pris les faux prophètes pour des vrais, et ceux qui étaient envoyés de Dieu pour des faux prophètes, à tel point que les vrais prophètes ont été tués, lapidés, torturés et emprisonnés. Ils devaient se cacher dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Hébreux chapitre 11, verset 38. Bien qu'ils aient été les hommes les plus honorables de la terre, on les a chassés de la société, les condamnant à errer, car on préférait chérir, honorer et soutenir les fripons, les vagabonds, les hypocrites, les imposteurs et les hommes les plus vils. Si le Christ venait dans cette génération enseigner des choses aussi dures que celles qu'il a prêchées aux Juifs pendant son ministère terrestre, je n'ai pas la moindre idée s'il serait rejeté ou non à cause de cette dureté. Beaucoup d'hommes disent « Je ne t'abandonnerai jamais et je serai toujours à tes côtés ». Mais dès que vous leur enseignez certains des mystères du royaume de Dieu, qui sont tenus en réserve dans les cieux pour être révélés aux enfants des hommes lorsqu'ils seront prêts à les recevoir, ils sont eux-mêmes les premiers à vous lapider et à vous tuer. C'est le même principe qui a conduit à la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ et qui poussera les gens à tuer les prophètes dans cette génération. Beaucoup de choses sont inexplicables aux enfants des hommes dans les derniers jours, par exemple, le fait que Dieu ressuscitera les morts. Ils oublient que des choses ont été cachées dès avant la fondation du monde et seront révélées à de petits-enfants dans les derniers jours. Beaucoup d'hommes et de femmes grands et sages parmi nous sont trop sages pour accepter l'enseignement. En conséquence, ils périront dans leur ignorance et à la résurrection connaîtront leur erreur. Beaucoup scellent la porte des cieux en proférant « Que Dieu révèle et je croirai ». Ainsi en a-t-il toujours été quand un homme envoyé de Dieu avec la prêtrise commençait à prêcher la plénitude de l'Évangile. Il était rejeté par ses amis qui étaient prêts à l'abattre s'il enseignait des choses qu'il pensait fausses, et Jésus a été crucifié selon ce principe. Malheur, malheur à l'homme ou au groupe d'hommes qui lève la main contre Dieu et ses témoins dans ses derniers jours, car ils séduiront presque les élus. Quand un homme prophétise et commande aux hommes de suivre ses enseignements, il s'agit soit d'un vrai, soit d'un faux prophète. Les faux prophètes se dressent toujours contre les vrais, et leurs prophéties étant si proches de la vérité séduiront presque les élus eux-mêmes. En conséquence du rejet de l'Évangile de Jésus-Christ et des prophètes que Dieu a envoyés, les jugements de Dieu ont reposé sur les peuples, les villes et les nations à différentes époques. Ce fut le cas de Sodome et Gomorre, détruites pour avoir rejeté les prophètes. William P. McIntyre a rapporté. Joseph Smith a prophétisé que tous les gens qui traiteront avec légèreté les révélations, ses paroles ou lui-même, ne tarderont pas à pleurer et à se lamenter, ils diront. Oh, si seulement nous avions écouté les paroles de Dieu et les révélations qu'il nous a données.
Conseils pour l'étude et l'enseignement.
Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour vous préparer à enseigner. Pensez à ce qu'ont ressenti les premiers membres de l'Église au sujet des révélations reçues par l'intermédiaire de Joseph Smith. Qu'éprouvez-vous au sujet des doctrines et alliances? À votre avis, pourquoi le salut ne peut-il s'obtenir sans la révélation? À votre avis, pourquoi, comme dans l'histoire d'Irampage, les gens se laissent-ils parfois séduire? Que pouvons-nous faire pour éviter d'être trompés par de faux prophètes ou des enseignements faux? Quel bienfait tirons-nous du fait d'avoir un seul homme qui peut recevoir des révélations pour toute l'Église? Avez-vous des expériences à raconter dans lesquelles vous avez été guidé par le Seigneur dans vos responsabilités personnelles? Méditez sur la façon dont Joseph Smith et Brigham Young ont répondu à l'homme qui affirmait qu'on devait se borner aux révélations rapportées dans les Écritures. Qu'est-ce qui manquerait à votre vie si vous vous confiniez aux ouvrages canoniques et n'écoutiez pas les paroles du prophète vivant? Que pouvons-nous faire pour suivre l'esprit du conseil de Brigham Young? Que pouvons-nous faire pour soutenir le président et les autres dirigeants de l'Église? Quel conseil le président de l'Église a-t-il donné à la dernière conférence générale? De quelle façon avez-vous été béni en suivant le prophète et d'autres dirigeants de l'Église? De quelle façon les gens rejettent-ils les prophètes de Dieu? Que risquons-nous si nous ne suivons pas les recommandations de ceux que le Seigneur a choisis pour diriger son Église? Écriture en rapport avec le sujet. Proverbe chapitre 29, verset 18. Jacob chapitre 4 à 8. 3 Néphis chapitre 28, verset 34. Mormon chapitre 9, verset 7 à 9. Doctrine et Alliance, section 21, verset 1 à 6.